Comme sa parole est précieuse et glorieuse, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'on reconnaît un véritable enfant de Dieu aussi au fait qu'il a le désir d'entendre la vraie parole de Dieu. Alors aucun chemin n'est trop long, aucune dépense trop élevée, car le prophète a déjà dit dans l'Ancien Testament, le temps viendra où Dieu enverra une faim sur le pays, non pas une faim d'eau et de pain, mais une faim d'entendre sa parole. Non pas des interprétations de sa parole, mais sa parole, la parole originale. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour le grand privilège dont jouit notre génération, celui d'avoir entendu sa parole fraîchement descendue du trône, de pouvoir la recevoir et croire et en voir l'accomplissement. Dimanche dernier à Zurich, j'ai lu un extrait d'un sermon de Frère Branham dans lequel il dit « Dieu ne bénit Israël que dans le pays de la promesse. » Et je ne déforme pas l'Écriture en disant que Dieu ne peut pleinement bénir l'Église des nations que si elle s'établit sur le sol des promesses divines pour notre temps. Car Dieu est lié à sa parole. Et si nous nous soumettons à sa parole, si nous y croyons et l'accueillons, la recevons, alors il nous bénit à cause de sa parole que nous avons reçue avec foi, accueillie avec foi. Il existe certaines lignes directrices que Dieu a établies que nous ne pouvons pas dépasser et que nous ne voulons pas non plus dépasser, car nous souhaitons bien sûr que le Seigneur nous bénisse. Nous avons déjà entendu certaines choses dans la parole qui nous a été lue. Dieu donnera à son peuple un cœur pour le reconnaître, pour l'écouter, pour lui accorder sa foi, un cœur transformé, un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin de pouvoir accueillir, recevoir la chose nouvelle que Dieu accomplit. Nous avons déjà dans l'Ancien Testament les promesses que Dieu fera quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Et nous pouvons en effet compter sur le fait que ce qui ne s'est jamais produit auparavant se produira de nos jours. Dieu s'est réservé par la perfection de sa puissance d'agir souverainement et d'accomplir sa parole en ceux qui y croient aujourd'hui. Nous reviendrons au livre de Josué, mais permettez-moi, puisque nous avons entendu cette parole d'introduction, de lire encore deux ou trois passages avant cela. Dans Jérémie 34, je relis le verset 7. Jérémie 34, verset 7. « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, moi, le Seigneur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, car ils se convertiront à moi de tout leur cœur. » Nous pensons ici à deux ou trois passages bibliques du Nouveau Testament. Avant tout, ils se convertiront à moi de tout leur cœur. complétons simplement cette pensée. Celui qui se convertit à Dieu de tout son cœur recevra toute la révélation de Dieu, sera introduit dans toute la volonté, dans tout le dessein du salut de Dieu. Celui qui se convertit à demi-cœur connaîtra des demi-mesures tout au long de sa vie, et cela ne suffira pas à la fin. Dieu nous veut tout entier, le cœur, l'âme, oui, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces, et même de notre, oui, même de notre pensée. Là où l'on trouve un don, une consécration totale, entière au Seigneur, un sacrifice total sur son autel, là Dieu pourra accomplir une œuvre totale sur l'homme, et ces hommes n'appartiennent alors plus à eux-mêmes, mais au Seigneur. Voici aussi cette promesse. Je leur donnerai un cœur nouveau ou un cœur capable de me connaître par la révélation. Tout ce qui vient de Dieu vient par la révélation. Personne ne peut l'expliquer à autrui. Cela doit être révélé par Dieu. Et cette révélation aboutit à ce que nous connaissions le Seigneur. Et puis, nous avons la promesse, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Si nous sommes véritablement le peuple de Dieu, et si Dieu est véritablement notre Dieu, alors il pourvoira à tout au milieu de son peuple jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Deux passages. L'un, vous serez pour moi des fils et des filles, vous serez mon peuple, et l'autre, reconnaître le Seigneur. Connaître le Seigneur. L'un se trouve dans l'épître aux Philippiens, comme l'a écrit Paul au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, verset 10. Car je veux le connaître et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à sa mort, verset 11, afin d'arriver à la résurrection d'entre les morts. Je veux le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Écrit ainsi un apôtre, après de nombreuses années de ministère. Nous aussi, nous voulons connaître notre Seigneur plus profondément, mieux le découvrir dans tous les domaines, de toutes les manières, afin qu'il ne nous reste pas inconnu, mais qu'il puisse se révéler à nous. Nous avons ensuite le passage bien connu de 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Comment le temple de Dieu s'accorde-t-il avec les idoles? Nous sommes en effet le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai parmi eux et je marcherai avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. N'est-ce pas merveilleux? Dieu veut être notre Dieu. Nous pouvons, nous devons être son peuple. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ordonne le Seigneur, et ne touchez rien d'impur, et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Quelle parole merveilleuse! Un appel à sortir de la véritable Église de Jésus-Christ, destinée à accueillir la parole, à croire aux promesses, destinée à devenir fils et fille de Dieu. En ce qui concerne la sortie, nous l'avons déjà compris en lisant l'Ancien Testament. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous voyons alors une sortie d'une situation, d'un pays, par exemple, de l'esclavage, de la servitude, puis une entrée dans le pays de la promesse. Je crois que le temps de l'appel définitif, de l'appel à sortir définitif, de l'appel définitif à sortir est aujourd'hui plus actuel que jamais. Conformément à Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Puis entendu une autre voix venant du ciel qui disait: sortez d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez pas part à ses péchés et que vous ne soyez pas touchés par ses fléaux. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Nous n'avons pas besoin de lire plus loin la description complète dans Apocalypse 17 et 18 révèle très précisément de quelle institution il s'agit et qui et quoi sont visés. Il faut d'abord sortir avant de pouvoir entrer. Il en était ainsi autrefois avec Israël et il en est ainsi aujourd'hui avec nous. Si nous considérons la chose d'un point de vue purement terrestre, alors tout est rappelé dans ce grand sein maternel. Toutes les directions qui se sont écartées et séparées doivent en effet revenir. Mais le Seigneur appelle à sortir. Et il n'appelle pas à revenir à Rome, il appelle à revenir à Jérusalem, à revenir à la parole originelle qui est partie du mont Sion, et comme il est écrit, revenir à l'enseignement de Jérusalem. Nous savons que tous les vrais prophètes, et il n'y a pas eu de prophète païen, tous les prophètes que Dieu a envoyés étaient des Hébreux, car Dieu ne s'était révélé qu'à ce peuple. Et Balaam, qui voulait se faire passer pour un prophète, a fait trébucher le peuple de Dieu. Il a certes ouvert grand la bouche et dit: celui dont l'œil est ouvert, etc. Et ainsi de suite, mais son œil n'était pas si ouvert que cela. Bien sûr, il a pu voir ce que Dieu a fait par Moïse et pour Israël, mais il n'appartenait pas du tout au peuple de Dieu. Il n'avait rien en commun avec eux. Il ne pouvait donc ni être une bénédiction, ni les servir, mais il ne pouvait pas non plus leur nuire, car Dieu avait dit: tu ne diras que ce que je te dicterai. Mais les véritables prophètes envoyés par Dieu étaient issus du peuple que Dieu avait choisi parmi tous les peuples de cette terre pour en faire sa propriété. Ce peuple était destiné à transmettre son témoignage et à rendre témoignage de la foi en l'unique vrai Dieu, le Dieu vivant, à tous les peuples, à tous les autres pays voisins, à tous les autres pays voisins. Si j'évoque ici cette pensée que tout est rappelé et que, oui, tout revient en arrière. Alors, une deuxième pensée me vient à l'esprit. Tout comme les peuples européens se sont débarrassés du joug, du socialisme et du communisme, puisse Dieu accorder sa grâce afin que le joug spirituel de Rome soit également brisé et que tous ceux qui ont été destinés à la liberté dans le royaume de Dieu puissent jouir de cette liberté qui leur appartient désormais, qu'ils puissent la mettre en pratique, la saisir et servir le Seigneur leur Dieu comme cela leur est dit dans la parole ou comme cela nous est dit à tous dans la parole. Dimanche dernier à Zurich, j'ai fait un songe et vous savez que je rêve très rarement, mais je l'ai tout de même brièvement mentionné. Cela fait justement 14 jours d'aujourd'hui. 14 jours aujourd'hui ou ce sera demain matin que j'ai effectivement fait un songe tout à fait étrange. Et comme je l'ai déjà dit, je rêve très très rarement, mais dans ce songe, j'étais transporté à ciel ouvert. Derrière nous se trouvait une cathédrale gigantesque qui me rappelait la cathédrale de Cologne, mais la réunion se tenait à ciel ouvert. Une grande foule des photographes de presse, certains filmaient, d'autres prenaient des clichés. Il y avait une foule immense. Et maintenant, les responsables des différentes communautés devaient se mettre en rang, dos à cette cathédrale, et tous devaient être vêtus d'une tenue liturgique de la communauté religieuse catholique romaine. Et on les a pris et alignés, j'ai vu la rangée, puis on m'a pris, on m'a mis à côté, on m'a rangé là, aussi là-bas, et j'ai regardé les vêtements ont été apportés, c'était plutôt comme une robe d'évêque, et l'un après l'autre, on les a revêtus. Et je me suis simplement retourné, j'ai vu ce qui se passait, et j'ai prononcé cette parole. Je n'ai pas ma place ici. Je ne me laisserai pas revêtir. Je me suis alors avancé et j'ai voulu voir qui dirigeait tout cela. Qui tenait les rênes. C'était en quelque sorte dans mon cœur, dans ce songe, je voulais savoir qui dirigeait tout cela ici. Et vous devez bien me croire. Je ne peux pas juger si ce songe venait de Dieu. Mais, en tout cas, je ne peux que raconter ce que j'ai vu là-bas. Et quand je me suis tourné vers la gauche pour voir le président de toute cette affaire qui se déroulait là, j'ai eu un sursaut à cet instant. J'ai en effet vu le diable en taille réelle devant moi, lui aussi vêtu d'une magnifique robe ecclésiastique. Et les mots m'ont échappé. Je voulais voir le président de toute cette entreprise et j'ai vraiment eu peur. Puis je lui ai dit, mais tu es Satan. C'est ce qui m'est sorti de la bouche et ce à deux reprises. Puis je me suis retourné et j'ai simplement dit, je n'ai pas ma place ici. J'ai vu les photographes de presse, les caméras tournaient, il y avait une foule, mais j'ai échappé à tout cela. Il existe un peuple de Dieu sur terre qui n'est pas destiné à suivre la voie large avec la masse, mais à rester fidèle au Seigneur. Mais il se pourrait que d'ici peu, une pression soit exercée pour que tous ceux qui ne participent pas encore à cela soient d'abord mis au pas avec une douce contrainte afin que, comme je l'ai dit, c'était de beaux habits, n'est-ce pas? Pas ceux d'un curé de village, mais déjà la tenue d'un évêque, je dirais. Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas destinés à cela. Dieu a pris des dispositions pour que nous comprenions les choses, que nous les discernions, que nous puissions les mettre en perspective et que nous sachions qu'il a une église qui a été appelée hors de cette affaire. Non pas pour avoir part aux péchés qui se sont accumulés jusqu'au ciel, mais pour avoir part à ce que Dieu accomplit finalement dans son Église. Ce n'était probablement qu'un avertissement pour signaler ce qui pourrait bientôt arriver, avant que la pression ne s'exerce avec ne pas vendre ni acheter. Il y aura certainement encore quelques gestes diplomatiques pour attirer ainsi les derniers déchus, apostates. Nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur. Nous avons été destinés à rendre témoignage à la vérité et nous faisons partie de ce que Dieu accomplit actuellement. Nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ et non au système antichrist. Vous devez bien nous comprendre là-dessus. Cela ne nous fait aucun plaisir de parler de l'autre camp ou de le mettre en lumière afin que l'on voit ce qu'il en est réellement. Nous préférerions, nous aussi, nous contenter de proclamer l'Évangile et laisser tout le reste de côté. Mais nous vivons une époque grave, un âge prophétique, une époque où toutes ces choses qui ont trait à la prophétie biblique sont également intégrées à la prédication afin que l'enseignement, oui, tout ce qui importe maintenant soit éclairé pour le peuple de Dieu à partir des Écritures, afin que nous puissions nous aussi prendre notre position devant Dieu dans la parole. Comme je viens de le dire, cela ne nous procure aucun plaisir. Ce serait bien si nous pouvions au moins suivre certains d'entre eux sans nous exposer à la critique. Mais ce n'est pas nous qui avons fait ce choix. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Je voudrais encore lire un passage de Jérémie 23 que j'avais ouvert lorsque nous avons lu le chapitre 24. Jérémie 23 à partir du verset 16. Jérémie 23, à partir du verset 16. Ainsi a parlé le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils ne font que vous tromper. Ils vous annoncent des visions issues de leur propre imagination, sans mandat du Seigneur. Verset 17. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent. Écoutez bien. Verset 17. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent. Le Seigneur a promis. Tout ira bien pour vous. Dieu ne s'adresse pas du tout à ceux qui le méprisent. À qui Dieu s'adresse-t-il? À ceux qui ont du respect, qui ont de la crainte devant sa parole, qui sont prêts à accueillir ce qu'il dit et à se corriger. Mais les faux prophètes qui disent « Oui, ainsi parle le Seigneur, tout va bien, vous n'avez absolument rien à craindre. » Et puis, nous continuons à lire à partir du verset 17. « Et à tous ceux qui marchent dans l'obstination de leur cœur, ils disent « Aucun malheur ne vous arrivera. » Il faut imaginer des gens dont le cœur est endurci, qui dans l'obstination de leur propre cœur et de leur propre pensée défient Dieu. Et là aussi, on prophétise avec zèle, aucun malheur ne vous touchera, tout est merveilleux dans la joie. Et voici maintenant l'explication au verset 18. Car qui s'est tenu dans le cercle des conseillers du Seigneur pour l'avoir vu et avoir entendu sa parole? Et avoir entendu sa parole. Pas une invention de son propre chef, mais avoir entendu sa parole. Verset 18. Qui a écouté et entendu sa parole? Verset 19. Sachez-le bien, un vent violent du Seigneur, sa colère se déchaîne et une tempête tourbillonnante s'abat sur la tête des impies. Lisons encore quelques versets plus loin. Verset 20. La colère ardente du Seigneur ne s'apaisera pas tant qu'il n'aura pas accompli son œuvre et réalisé les desseins de son cœur. À la fin des jours, vous le verrez clairement. Amen. Pourquoi à la fin des jours? Parce qu'il le fera à la fin des jours. Cela est lié à l'appel à sortir, à la préparation et à l'accomplissement, à l'achèvement qui ont lieu justement à la fin des jours. Et si vous voulez le savoir précisément, ce sont là les jours dont les prophètes ont parlé. Nous vivons à la fin des jours où Dieu agit à nouveau. On ne le voit peut-être pas à l'œil nu, mais nous avons déjà reconnu que Dieu est à l'œuvre conformément à sa parole et aux promesses qu'il a faites. Ce qui me réjouit au plus haut point, et je tiens à le dire dès maintenant, c'est le fait que le Seigneur Dieu se soit ainsi abaissé vers notre génération dans la colonne de nuée et de feu pour nous faire connaître sa présence, son intérêt pour son peuple, pour nous montrer que c'est lui maintenant qui agit, même s'il s'est servi de différents hommes pour cela tout au long du passé jusqu'à nos jours, qui étaient des prophètes et avaient des mandats précis à accomplir. Mais celui qui agit, c'est Dieu lui-même. Imaginez que cela ne se soit pas produit dans notre génération. Et j'espère vraiment que tous ceux qui sont ici aujourd'hui puissent croire, même s'ils l'entendent pour la première fois, que nous ne disons que la vérité, et cela la Bible ouverte devant la face du Dieu vivant. Et si certains ne voulaient pas nous croire, ce serait tout à fait compréhensible, car il est après tout écrit que tout homme est menteur et que Dieu seul est véridique. C'est ainsi qu'il est écrit et c'est ainsi. Mais nous ne rendons pas témoignage de ce que les hommes ont fait, mais de ce que Dieu a fait. Et parce que c'est Dieu qui l'a fait, nul ne pourra subsister devant lui s'il veut passer à côté. Celui qui passe à côté de ce que Dieu a fait passe à côté de Dieu. Et il n'y a pas d'autre chemin qui puisse mener au but. C'est alors seulement son propre chemin qui mène à la perdition. Bon, nous y reviendrons tout à l'heure, si Dieu le veut. Maintenant, voici ce qui est dit au verset 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils se pressent. Je ne leur ai donné aucun mandat, et pourtant ils prophétisent. Et voici maintenant cette déclaration définitive au verset 22. S'ils avaient vraiment fait partie de mon conseil, ils auraient annoncé mes paroles à mon peuple et l'auraient détourné de ses mauvaises voies et de ses actes impies. Alors, ils ne viendraient pas tromper les gens en leur faisant croire qu'ils ont un lien particulier avec Dieu, qu'ils prophétisent et exercent d'autres dons. S'ils avaient vraiment été envoyés par Dieu, ils proclameraient la parole de Dieu afin de ne pas laisser le peuple suivre ses propres voies et de ne pas l'y encourager même par des paroles pieuses. Un exemple. Nous avons d'ailleurs pu constater comment cela se passe actuellement dans les réunions charismatiques en Autriche. On y prophétise. On a l'impression que ces gens ont tout en réserve et qu'ils le déversent à volonté. Je suis parmi vous et je vous bénis. Et on a vraiment l'impression que tout le ciel s'est incliné. Et quand on regarde ensuite la réunion, des femmes tout droit sorties du monde, maquillées à outrance en pantalon long ou autre, etc., sans aucune trace de crainte de Dieu, chacune suivant son propre chemin, et puis on prophétise, ainsi parle le Seigneur, je suis au milieu de vous. Non, ce n'est pas ainsi que parle mon Seigneur. Mon Seigneur dit dans sa parole, ils ont prophétisé sans mon mandat, ont proclamé des choses de leur propre initiative afin de conforter le peuple dans ses propres voies. Les gens rentrent tous chez eux et pensent que tout va bien pour eux. Ce n'est pas en ordre. Et quand cela sera-t-il dévoilé? Seulement lorsque la parole de Dieu sera proclamée. Car ces paroles n'ont encore aidé personne jusqu'à présent. Au contraire, il en est ainsi comme il est écrit ici. Ils ont ainsi fortifié le peuple dans ses propres voies. Avez-vous compris? Bien sûr que c'est ainsi. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que les hommes ne soient pas encore abreuvés et encouragés dans leur propre voie par des paroles pieuses comme si elles venaient de Dieu, mais que la parole du Seigneur soit placée au milieu d'eux et qu'une décision divine soit prise sous la conduite du Saint-Esprit. Dans combien de directions Dieu doit-il donc aller? À qui doit-il se joindre? Que doit-il déclarer juste? Laissez de côté tout ce qui est à droite et à gauche et croyez comme l'Écriture l'a dit, car Dieu restera pour toujours le Dieu de sa parole. Dieu est lié par sa parole et l'accomplira. S'ils avaient vraiment été dans mon conseil, ils auraient proclamé mes paroles à mon peuple et l'auraient détourné de ses mauvaises voies et de ses actions impies. Jérémie 23, verset 22. Et comme nous l'avons déjà lu, je ne pas encore l'encourager dans ses mauvaises voies. Je n'aimerais pas faire cette comparaison, mais elle est pourtant très, très pertinente. Il y a effectivement eu dans notre génération de nombreux hommes qui se sont manifestés. Ils ont eu beaucoup à dire et ont conforté toutes les communautés religieuses dans ce qu'elles enseignaient. Ils leur ont dit, vous pouvez rester où vous êtes et tel que vous êtes. Soyez simplement fidèles et servez le Seigneur. Mais il y a eu un homme qui n'a pas dit, vous pouvez rester croire et enseigner ce que vous voulez. Un homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu qui devait être placé sur le chandelier. Et tous ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu et l'accueillent avec gratitude. Nous ne glorifions ainsi aucun homme. Nous respectons les décisions divines et sommes reconnaissants que les choses se soient passées ainsi et que cette parole, nous l'appelons d'ailleurs la parole révélée, que cette parole nous soit parvenue. Et savez-vous, c'est bien ce message divin qui nous a amenés à comprendre la séparation et l'appel à sortir et à en voir la nécessité. L'avons-nous compris maintenant? Bien sûr. Sinon, nous n'aurions pas su de quoi il s'agissait. Donc, un appel à sortir et une concordance, un accord avec une conformité avec l'ensemble de la parole de Dieu, de Moïse jusqu'à l'Apocalypse. Et je crois qu'aucun de nous n'a de mal à croire ce qu'était la chute de l'homme et toutes les autres choses, les mystères que Dieu a révélés dans sa parole. Nous admettons que certaines choses étaient difficiles à comprendre pour la compréhension humaine, pour l'esprit. Mais l'esprit humain. Mais depuis que Dieu a donné la révélation par l'esprit, nous voyons les choses même lorsque nous ne pouvons pas les expliquer aussi clairement avec nos paroles, avec nos mots. Rendons grâce à Dieu de nous avoir accordé le privilège en ces jours de voir la vraie parole de Dieu telle qu'elle est venue autrefois fraîchement du trône et a été donnée aux prophètes et aux apôtres. Et qui aujourd'hui, fraîchement, descendu du trône par ce même esprit, a été révélé à nouveau, éclairé d'un jour nouveau et replacé dans son contexte. Tout cela, c'est Dieu qui l'a fait par grâce. Revenons à Josué au chapitre 1, car l'appel à sortir, l'exode sous Moïse et l'entrée en terre promise sous Josué ont certainement une signification pour nous aussi aujourd'hui, en ces jours-ci. Josué, chapitre 1, à partir du verset 5. Verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te retirerai pas mon aide et je ne t'abandonnerai pas. Une magnifique promesse. Nous avons lu hier soir le verset 2 où le Seigneur a donné le seul avis de décès que l'on trouve ainsi, Josué 1, verset 2. Le Seigneur, notre Dieu, dit, « Mon serviteur Moïse est mort. » Comme je l'ai dit, ce n'était pas une chose agréable pour tout Israël, ni pour Josué, et certainement pas pour Caleb et pour tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Lorsque de tels hommes de Dieu s'en vont, c'est une grande perte pour toute l'Église, mais Dieu a toujours eu un moyen. Il n'a pas cessé d'agir avec le départ de l'un de ses messagers. Il a toujours continué. Pensons à ce cas où lorsqu'il a pris Élie, Élisée était déjà là et l'œuvre a pu se poursuivre. Dieu ne se retrouve jamais dans une situation désespérée où il ne saurait plus quoi faire. Et nous savons qu'Élisée a abattu les 12 paires de bœufs. Et cela afin qu'il ne puisse plus jamais retourner là d'où il venait. Ce n'était plus possible pour lui. Tous les ponts étaient coupés. Il avait fait le point sur tout. Tout offert en sacrifice et se tenait à la disposition de Dieu le Seigneur. Et là aussi, certains pourraient sourire un peu en lisant dans la parole de Dieu qu'Élisée a suivi Élie. Ils auraient alors dit une fois de plus, « Oh là là, il court après un homme. » Vous savez bien que les gens pensent toujours de manière humaine et ils croient que les autres se trompent alors qu'ils sont eux-mêmes dans l'erreur. Élie savait ce qui devait arriver et Élisée l'a compris lui aussi. Même quand Élie a dit « Reste ici », il n'a pas obéi. Il a continué. Il a marché encore et encore jusqu'à ce qu'il voit Élie être enlevé devant lui. Il a parcouru tout le chemin jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté à Bethel ni à Gilgal. Il est allé jusqu'au Jourdain. Le Jourdain signifie en effet la mort, la séparation. Il y est entré et que s'est-il passé? Il a reçu une double portion. Nous ne suivons pas un homme, ni même un prophète. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et Rédempteur. Mais nous rendons grâce à Dieu de tout notre cœur que la parole ait été remise sur le chandelier, même de nos jours. Si Moïse a la parole de Dieu, je m'en tiens à lui. Si Josué l'a, je m'en tiens à lui. Si Élie l'a, je m'en tiens à lui. Je veux être là où Dieu agit et se déplace. Je veux être là où Dieu fait quelque chose. Pas là où l'on philosophe. Laissons de côté les philosophes et venons vers le Seigneur pour prendre part à ce qu'il fait. Qu'on le répète encore une fois, un point de vue terrestre, cela ressemblait d'un point de vue terrestre, cela ressemblait vraiment à cela. Cet Élisée qui courait auparavant après les bœufs court maintenant après un prophète. On aurait pu dire cela pour se moquer. Avant, il courait après les bœufs et maintenant il court après cet homme. Heureux soient tous ceux qui cessent de courir après certains bœufs et se rendent là où se trouve véritablement la parole de Dieu. Mais pour cela, il est nécessaire de couper tous les ponts, d'offrir un sacrifice et de faire disparaître tout ce qui pourrait nous retenir. Il ne restait que des cendres, plus de bœufs, ni d'attelage, et donc plus de course après les bœufs. Mais Dieu en a simplement décidé ainsi. Il a mis dans son cœur de faire cela afin que la décision soit vraiment totale et ne puisse plus jamais être révisée. Combien de fois encore boitons-nous des deux côtés? Ce n'est qu'alors, lorsque la décision totale aura été prise et que toute cette course après les bœufs aura pris fin et que nous aurons compris que Dieu a commencé à agir en nos jours selon sa parole, et qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Ce n'est qu'alors et en lien avec cela que nous devrons offrir un sacrifice total pour ne plus jamais pouvoir revenir en arrière. Parfois, les gens disent, bon, je vais essayer, je vais venir chez vous et ensuite je verrai si cela me plaît. Celui qui vient chez nous peut repartir tout de suite. Mais celui qui vient au Seigneur pour la parole, qu'il vienne et reste et qu'il absorbe la parole de Dieu en lui. Nous ne sommes pas non plus venus chez nous. Nous sommes venus au Seigneur. Grâce soit rendue au Dieu vivant. Pour cela, je veux dire que le temps est venu pour nous aussi de reconnaître très clairement ces choses, d'offrir un sacrifice total, de déposer nos corps sur l'autel de Dieu et de dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Plus les deux pieds dans deux camps, plus comme Israël l'a dit en son temps, revenons en Égypte pour nos repas à l'ail. Nombre 11, verset 5. L'ail n'a jamais senti bon, même s'il fait parfois du bien, mais pas de retour en arrière. Où retourner? Là d'où Dieu nous a fait sortir? Loin de là. Dieu nous a fait sortir pour nous faire entrer, pas pour nous renvoyer. Non. Mais il y avait beaucoup de populace, comme le dit l'Écriture. Et ils ont semé le trouble parmi le peuple de Dieu. Et ainsi de, Et ainsi, certains se sont laissés entraîner. Josué 1, verset 5. Josué 1, verset 5. Maintenant, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. S'agissait-il ici d'un homme? Mais non, s'il vous plaît. Mais il s'agissait de la parole de Dieu qui avait été placée dans l'arche de l'Alliance. Il s'agissait du fait que Dieu avait conclu une alliance, du fait que Dieu avait fait des promesses. Et c'est ici que Dieu agissait et régnait, même s'il a parfois utilisé un prophète ou quelqu'un d'autre comme Moïse. Dieu a dit, je suis descendu pour libérer le peuple, mais c'est toi que j'envoie. Dieu envoie ses serviteurs matin et soir, mais c'est lui-même qui conduit le peuple et qui, à l'époque, a fait valoir sa puissante main par l'intermédiaire de Moïse afin que tout cela puisse s'accomplir. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te retirerai pas mon aide et je ne t'abandonnerai pas. Viens maintenant et nous devons tous nous en souvenir un peu. La consolation pour Josué. Sois courageux et fort. Le verset 6, Josué chapitre 1. Moïse était mort. Comment cela va-t-il continuer, Seigneur? Comment cela va-t-il continuer? Qu'adviendra-t-il du peuple? Quelle est la prochaine étape à franchir? Seigneur, Seigneur. Et nous voyons que Dieu est fidèle. Il dit, sois courageux et fort. Dans de tels moments, on peut très vite se décourager. Vous ne croyez pas? Le prophète, le plus grand prophète que l'Ancien Testament ait connu, a été enlevé. Plus de colonnes de feu, plus de colonnes de nuée, plus de réponses comme auparavant à l'entrée de la tente, de la rencontre, du tabernacle, lorsque la nuée s'abaissait et que le Seigneur parlait face à face avec Moïse. Tout cela était désormais révolu. Seigneur, comment cela va-t-il continuer? Nous comprenons très bien qu'il fallait aussi redonner du courage à Josué à ce moment-là, car lui aussi n'était qu'un homme, tout comme nous. Et David s'écrit à un moment donné, « J'étais très inquiet quand dans ma consolation, psaume 94, ou bien 94, 19. Même les serviteurs de Dieu ont besoin de courage et de réconfort en toutes circonstances, et particulièrement lorsqu'ils assument une responsabilité directe liée au peuple de Dieu. Et je crois que nous avons pris conscience de cette tâche. Il est dit ici au verset 6 de Josué, chapitre 1, « Sois courageux et fort, car c'est à toi de distribuer en héritage ce pays à ce peuple dont j'ai juré à leur père de le leur donner. » Il ne s'agissait plus alors de promesses, mais maintenant de la prise de possession de ce qui avait été promis, de l'entrée en possession de l'héritage dans le pays promis. Je crois qu'en tant qu'Église, en tant qu'Église appelée à sortir, nous devons maintenant comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'agit plus de retarder ou de repousser les promesses données, mais maintenant réellement d'entrer en possession de toutes choses, comme l'a dit Frère Branham dans un sermon, en possession de toutes les choses que Dieu nous a promises. L'exemple de la foi nous est en effet présenté en la personne d'Abraham. Il espérait et croyait là où il n'y avait rien à espérer ni à croire. Et pourquoi croyait-il? Parce que Dieu lui avait fait cette promesse. Sa foi était ancrée dans la promesse de Dieu. Et la parole de Dieu est aussi solide que le ciel. Le ciel s'écroulera avant que sa parole ne me trompe. Nous, en tant qu'Église, en tant qu'Église appelée à sortir du monde, en tant qu'Ecclésia, en tant que favori et privilégié de Dieu, en tant qu'élu et bien-aimé de cette dernière génération. Nous pouvons faire confiance au Seigneur dans la foi, sachant qu'il est capable de faire véritablement tout ce qu'il a promis. Il n'a pas seulement dit à Moïse, « Je serai avec toi », mais à l'époque de Josué aussi, le Seigneur était avec son peuple et la terre devait être distribué, le pays devait être distribué. Les gens ne devaient plus se contenter de dire oui, le Seigneur l'a promis. Ils devaient maintenant entrer en possession de ce qui leur avait été promis. L'avons-nous compris? Voulons-nous faire confiance à Dieu en ces jours? Et si cela tarde encore un peu, alors, s'il vous plaît, ne tombez pas dans l'impatience ou le doute. Mais remerciez simplement le Seigneur avec joie dans la foi, car nous savons bien dans nos cœurs que Dieu accomplira et mènera à bien à 100% ce qu'il a promis et ce qu'il s'est proposé de faire. Pouvez-vous dire amen à cela? Oui, de tout notre cœur. Il ne peut en être autrement. Et Dieu, comme au jour de Josué, agira réellement en nos jours. Et l'on pourra dire, il n'y a jamais eu de jour pareil auparavant. Josué 10, 14, j'y compte. Et Dieu l'a d'ailleurs promis. Nous pouvons volontiers nous référer à d'autres passages bibliques. Puis cela continue comme au verset 7. Josué 1, verset 7. Sois seulement fort et déterminé. Remarquez-vous comment Dieu vient en aide à son serviteur. Il l'encourage. Il lui dit d'être déterminé, d'être fort, car l'œuvre à laquelle tu te consacres n'est pas ton œuvre. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le Seigneur ne nous a-t-il pas promis d'être avec nous tous, et cela tous les jours jusqu'à la fin? Matthieu 28, 20, question, sera-t-il avec nous? Amen, c'est ce qu'il a dit, cela reste vrai, nous pouvons compter là-dessus, il sera avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Cela continue ensuite au verset 7. Sois seulement fort et déterminé et veille à observer toutes les prescriptions de la loi que mon serviteur Moïse t'a imposées. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Cela aussi est très important, très très important pour notre époque. Vous savez bien qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, etc., afin que l'homme de Dieu soit parfait, revêtu pour toute bonne œuvre. Mais cet avertissement ici, les paroles et les instructions, la loi et tout ce que Dieu a donné à Moïse, Moïse ou le Seigneur lui-même l'a ensuite imposé à Josué. Il ne devait s'écarter ni à gauche ni à droite. Il devait rester fidèle à la parole originale de Dieu, ni à droite, ni à gauche, ne pas interpréter, ne pas apporter ses propres interprétations. Il devait rester fidèle à la parole originale qui a été donnée par révélation, par grâce. Je le sais, et je le dis ici avec un cœur sincère. Ce n'est tout de même pas le mérite d'un homme de rester, de demeurer dans la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui agit et non un homme. Ne soyons-nous pas nous aussi dispersés dans toutes les directions au gré des nombreux courants doctrinaux, en particulier ceux qui venant des États-Unis, qui semblaient dès le début être d'une qualité spéciale ou remarquable? Peu nous importe que les choses viennent des États-Unis, de l'Union soviétique ou d'ailleurs. Et quelle que soit l'importance qu'on leur donne, pour nous, seul compte la parole qui est venue de Dieu et qui nous a été annoncée par révélation, par une bouche mandatée, appelée. Et nous n'avons pas besoin de chercher d'autre chose. C'est toujours là le grand besoin. Et je ne dis pas cela par arrogance, je le dis pour l'amour de la vérité. Seul celui qui n'a pas reconnu ce que Dieu a dit et donné et à qui cela n'est pas devenu une révélation, cherche ici encore et cours là encore, là-bas et là-bas pour toujours trouver quelque chose de nouveau. Oui, trouver quelque chose de nouveau, ce que n'importe qui sort de son chapeau, je n'en ai pas besoin. Je peux m'en passer. La parole de notre Dieu nous a véritablement été révélée et nous avons une Bible vivante, car nous avons un Dieu vivant. Et le Dieu vivant s'est révélé comme le vivant dans nos jours. Celui qui court encore après un vent de doctrine par-ci et un autre par-là n'a pas encore assimilé la doctrine biblique, l'enseignement tel qu'il nous a été proclamé par des bouches autorisées à parler. D'où cette agitation. Il en va de même pour les révélations particulières. Celui qui a reçu la véritable révélation de Jésus-Christ ne sort de sorte qu'elle est devenue pour lui une révélation. Elle est devenue pour lui une révélation. Celui-là ne court pas dans tous les sens. Celui qui a trouvé ne cherche plus. Et je pense là à la parole de l'Ancien Testament. Cherchez le Seigneur. N'allez pas à Bethel, ni à Gilgal, ni ailleurs. Mais cherchez le Seigneur. Amos 5, verset 4 à 5. Et celui qui cherche le Seigneur le trouve, du moins s'il le cherche de tout son cœur. Et celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé une mine d'or. Il a trouvé tout ce qui a trait à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ et y est lié. Et ainsi nous sommes unis au Seigneur Dieu et ne sommes pas non plus des gens qui courent à l'aveuglette à travers le pays simplement parce que quelqu'un pense devoir présenter quelque chose de nouveau comme une révélation. Combien de choses ont déjà été proclamées. Dieu merci, nous pouvons rester fidèles à la parole originale, tout comme Dieu a imposé à Josué l'obligation d'observer tous les commandements, toutes les instructions, toute la loi et tout ce qui s'y rapportait, et d'y demeurer. De même, Dieu nous a destinés à accueillir tout l'Ancien et le Nouveau Testament, toutes les instructions, les enseignements et les ordonnances, toutes les révélations, tout ce qui est dans la parole de Dieu, à y croire de tout notre cœur, à y être affermi et à y demeurer jusqu'à la fin. Nous ne nous laissons troubler par personne ni par rien, car nous avons trouvé le repos en Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous relisons ici le verset 7. Sois seulement fort et déterminé et veille à observer toutes les prescriptions de la loi que mon serviteur Moïse t'a imposées. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Telle est la condition. Seule la troupe élue qui est restée dans les limites de la parole sera couronnée de succès. Car seul ce qui est en accord avec Dieu et la parole de Dieu peut être mené à son terme, peut être amené au but par le Seigneur. Le Seigneur ne peut se permettre un mélange entre la parole des hommes et la parole de Dieu. Le temps du mélange est révolu. Souvenez-vous des jours d'Esdras, de Néhémie et de Zorobabel lorsque le peuple d'Israël revint de sa captivité de 70 ans, de 70 ans, pour reconstruire le temple du Seigneur. Il fallut alors mettre à l'écart tous les étrangers. Des relations claires furent ainsi établies dans l'assemblée du Dieu vivant. Lorsque d'autres sont venus pour collaborer, voire pour aider, les frères ont dit non, nous nous en chargeons, vous n'y avez pas part. Certains voudraient aussi aider à la construction pour être ensuite présents lors de la destruction. Il y a différentes personnes qui s'immiscent, qui s'infiltrent et veulent être présentes pour diverses raisons. Au final, Dieu ne tolère plus aucun mélange entre la révélation claire et véritable de la parole et l'enseignement véritablement approfondi des Saintes Écritures. Cela devait certes précéder. Mais la même chose doit désormais suivre au sein de l'Église. Plus de mélange, mais une clarté et une vérité totale en toutes choses telles que Dieu les a dites dans sa parole et telles qu'elles sont désormais menées à leur terme. Toujours dans le même livre de Josué, voici le passage, peut-être verset 9. Donc Josué 1, verset 9. Je t'ai donc prescrit ceci, sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Oui, mais que devait donc entreprendre Josué? Avait-il ses propres projets? Non. Il agissait de la part de Dieu, mandaté par Dieu, pour à ce moment-là traverser avec le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, vers le pays promis, conformément à la parole promise. Mais remarquez-vous sans cesse cet encouragement. Sois fort et déterminé. Sois courageux et sois fort. Toujours ces paroles d'encouragement, elles me font du bien. Car même les serviteurs de Dieu sont parfois abattus. Ils se demandent comment cela va-t-il continuer, Seigneur? Et puis la réponse, sois fort, sois courageux, sois déterminé. Et quand une telle remarque sort de la bouche du Seigneur, alors la force nous envahit. Une nouvelle confiance, une nouvelle assurance envers le Seigneur, car nous savons bien que c'est sa cause, c'est son œuvre que nous défendons. Je t'ai donc imposé ce devoir, sois fort et déterminé. Dieu a confié à Moïse, je veux dire à Josué, dans ce cas précis, non seulement de préserver, de prendre à cœur d'enseigner et de rappeler au peuple tout ce qu'il avait donné à Moïse. Dieu lui a imposé aussi d'être déterminé, d'être fort et d'aller de l'avant. Et il lui dit, n'aie pas peur et ne te décourage pas. Et pourquoi pas? Car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et que devait-il entreprendre? Seulement conformément au plan de Dieu de traverser pour entrer dans le pays de la promesse. Son entreprise était l'entreprise de Dieu. Ses voies, les voies de Dieu. Ses décisions, les décisions de Dieu. Il avait été placé parmi le peuple de Dieu avec un mandat divin. Puis, il lui a été dit, je t'ai donc imposé cette tâche. Sois fort et déterminé. N'aie pas peur et ne te décourage pas. Sois fort et déterminé, car le Seigneur est avec toi. L'avez tous lu? Car le Seigneur est avec toi, ton Dieu, dans tout ce que tu entreprends. Il ne pouvait en effet entreprendre que ce qui était dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu pouvait être avec lui. Mes chers amis, ne nous enorgueillissons pas, mais reconnaissons-le avec gratitude et disons que nous souhaitons seulement être inclus et trouvés dans le plan de Dieu afin d'avoir la certitude qu'il peut être avec nous pour l'amour de sa parole, à cause de sa parole. Il n'était pas avec Josué pour Josué, mais pour la parole qui avait été confiée à Josué. Et finalement, il ne s'agissait ni de Moïse, ni de Josué, mais de tout le peuple de Dieu qui avait été conduit hors d'Égypte afin de le faire entrer conformément à la promesse dans le pays qui avait été promis à Abraham pour qu'il en prenne possession. Il en va de même aujourd'hui. Il ne s'agit pas de frère Branham. Et on pourrait presque dire aujourd'hui comme à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était le 5 ou le 6 janvier 1966, lorsque l'appel est venu des États-Unis, William Branham est mort. Ici, Dieu a dit, mon serviteur Moïse est mort. Oui, qu'est-ce que cela provoque? Un monde entier s'écroule. Un homme de Dieu n'est plus. Par qui Dieu va-t-il parler? Par qui va-t-il agir? Comment cela va-t-il continuer? Et déjà, le courage peut s'évanouir. Mais voyez, Dieu n'est pas mort. Il est dit en effet des serviteurs de Dieu dans le psaume 82, vous êtes tous des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Psaume 82, 6, 7. Les hommes de Dieu sont eux aussi des hommes et ils doivent mourir lorsque leur heure est venue. Mais Dieu vit d'éternité en éternité. C'est pourquoi son plan s'est poursuivi sans interruption. Nous vivons à une époque où toutes les promesses données auparavant trouvent maintenant leur accomplissement et leur réalisation. Pouvez-vous vous en réjouir? Pouvez-vous vraiment croire de tout votre cœur que nous sommes maintenant dans la dernière partie de l'histoire du salut divin avant le retour de Jésus-Christ? Pouvez-vous croire que l'appel à sortir, l'exode, n'a de sens que si nous sommes introduits maintenant dans le pays de la promesse et entrons maintenant en possession de toutes choses par une restauration divine totale telle qu'il a promise? Ce n'est qu'alors que la parole de Dieu aura été confirmée parmi nous comme vraie et que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. En effet, ce n'était pas William Branham ou d'autres qui présentaient leur programme, mais Dieu les a utilisés pour que son plan soit révélé à l'humanité. Nous devrions nous réveiller et, comme je l'ai déjà dit, suivre l'homme qui a succédé à Élie, c'est-à-dire Élisée. Il a dû suivre et partir. Il y a peut-être des étapes que nous devons nous aussi franchir, nous qui avons entendu le message prophétique. Mais si l'on veut nous dire, voici des disciples de prophètes, il y avait même en un certain lieu des élèves de prophètes qui sont venus et ont prophétisé. Sais-tu que ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête? Et ainsi de suite, là aussi, il aurait dû rester là où la prophétie avait été faite. Non, il n'est pas resté là. Il a laissé les disciples du prophète derrière lui et il est parti avec celui qui avait la parole de l'heure. Mais bien aimé, c'est cela qui compte. Et ce n'était pas une succession d'un homme. Voyons, voyez, cette épreuve aussi telle qu'elle vient de me toucher le cœur était l'une des plus difficiles. On a prophétisé sur ce chemin. On s'est arrêté et on a prophétisé. Cet homme de Dieu qui avait coupé tous les ponts derrière lui ne s'est pas non plus arrêté là où la prophétie avait été prononcée. Il a continué jusqu'à ce que le but soit atteint. Il avait en effet reçu une promesse. Si tu vois le Seigneur m'emporter, alors une double portion te sera accordée. Comment pourrait-il rester en arrière pour ensuite observer de loin ce qui se passe? Non, en avant, marche, en suivant le Seigneur, peu importe qui il envoie, jusqu'à ce que nous assistions à ce que Dieu a promis. Et nous le disons avec foi. Le Seigneur ordonne toutes choses, même en ces jours-ci. Pour certains, cela peut sembler un chaos, mais pas pour les vrais croyants. Au milieu de toutes les interprétations, orientations et explications, au gré du vent qui souffle, il existe un troupeau fondé sur la parole de Dieu qui n'a pas bâti sa maison sur le sable, mais sur le roc. Une troupe qui sait en qui elle croit, qui a entendu sa voix, qui a reçu sa parole et qui participe à son action en ces jours-ci. Et qu'on le dise encore une fois, Dieu ne peut pas aller dans plusieurs directions différentes. Il a toujours eu une direction principale dans laquelle il marchait. Et tous ceux qui voulaient marcher avec lui devaient s'en tenir à la direction qu'il avait déterminée. Et toutes les autres directions devaient être abandonnées. Que Dieu nous aide. Et je le dis peut-être même intentionnellement, mais je le dis devant le Dieu vivant. Par sa grâce, le Seigneur nous a maintenus en équilibre sur le chemin étroit qui mène à la vie sans que nous ayons à dévier ni à vouloir dévier ni à droite ni à gauche. Nous sommes restés dans ce que Dieu nous a révélé et confié par le message prophétique. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Oui, vous savez qu'il ne sera pas possible d'endosser n'importe quel talar ou bien soutane. Non. La parole du Seigneur est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre au plus profond. Dites-moi donc, et dites-le aussi au Seigneur. Aimez-vous entendre la parole de Dieu? La parole de Dieu a-t-elle quelque chose à vous dire? Êtes-vous d'accord avec elle? Y a-t-il un oui dans votre cœur? Avez-vous compris la direction divine? Êtes-vous impliqué dans cette direction divine? Oh, que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de reprendre courage, de ne pas désespérer, mais de croire, comme le dit l'Écriture, en sachant « Celui qui a commencé l'œuvre l'achèvera » Philippiens 1, 6 « Jusqu'au jour de son retour glorieux, qui est très, très proche. » Seul sa direction divine atteindra le but. Et nous ne revendiquons pas cela de notre propre chef, comme Josué, Moïse et aucun prophète n'ont pu le revendiquer pour eux-mêmes. Nous témoignons simplement d'avoir trouvé grâce devant Dieu et de nous laisser intégrer maintenant dans ce que Dieu fait conformément à la parole et aux promesses de nos jours. Nous avons du respect pour Dieu, du respect pour sa parole, de la crainte, de la révérence pour toutes les décisions qu'il prend et pour toute son action qu'il a entreprise et qu'il mène à son terme. Comme déjà dit en nos jours, puissent tous, y compris ceux qui sont parmi nous, pour la première fois ce week-end, être saisis par la parole, être convaincus par l'Esprit de Dieu et savoir que Dieu est présent et qu'il nous a parlé par sa parole. Et c'est le moment où nous devons écouter, accueillir, recevoir et croire. Puis encore, cette dernière parole, elle ne reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Isaïe 55, 11. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu accomplira ce pourquoi il l'a envoyée en tous ceux qui l'ont reçu, qui y ont cru et qui comptent sur la réalisation des promesses divines. Nous verrons plus loin dans notre réflexion que rien ne peut résister au Seigneur. Quand il accomplit ses promesses, alors les murs de Jéricho s'écroulent. Alors tout doit se plier à sa volonté. Alors il agit et opère dans sa souveraineté et tout ce qui se dresse sur son chemin doit être balayé pour qu'il puisse tracer sa voie avec nous tous. Le Seigneur nous exhorte tous. Soyez forts, soyez courageux, ne vous découragez pas, soyez résolus. Même si la fin tarde à venir, tenez bon, elle viendra à coup sûr, et Dieu fera ce qu'il a promis, pourvu que nous nous tenions sur le terrain des promesses divines. Car c'est seulement ainsi que Dieu peut les réaliser en nous et par nous. Que son nom glorieux soit loué et glorifié. Je sais que des décisions importantes ont été prises au cours de ce service divin. Et je sais que nous sommes conscients que ce n'est pas un homme qui a prononcé un discours ou bien un exposé, mais que c'est Dieu qui nous a parlé par sa parole. Et cette parole ne reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé. À lui, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse et de Josué, le Dieu de tous les prophètes, le vrai et unique Dieu vivant, soit louange et honneur dans toute éternité. Il est présent, il est au milieu de nous. Loué soit-il, béni soient tous ceux qui le ressentent, qui y croient et qui ouvrent leur cœur pour accueillir ce qu'il avait à nous dire, même au cours de ce service divin. Que sa bénédiction soit sur nous tous. Amen. Levons-nous et rendons encore ensemble grâce au Seigneur. Inclinons la tête, ouvrons nos cœurs devant Dieu. Il appelle, il exhorte, il avertit. Puis-je demander s'il y a aujourd'hui dans ce service divin des personnes qui ont été véritablement interpellées, que ce soit pour la première fois, la deuxième ou une autre fois, mais qui sentent que c'est le Seigneur qui avertit, qui exhorte et parle avec insistance. Il s'agit vraiment de tout. Et si la parole de Dieu a touché votre cœur, n'attendez plus, mais venez maintenant au Seigneur. Chaque personne doit à un moment donné faire le premier pas et prendre la décision de suivre le Christ, de lui consacrer sa vie et tout ce qui va avec. Et d'autres peuvent prendre la décision de marcher avec le Seigneur sans dévier ni à droite ni à gauche, mais en suivant le chemin droit de Dieu, le chemin élevé des rachetés, Isaïe 35, 8, tel qu'il est écrit dans Isaïe 35. Pendant que nous restons en prière, silencieuse, ayez le courage de lever brièvement la main, puis de la baisser. Si vous souhaitez être inclus dans la prière, que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vois ici l'homme que j'ai rencontré à Moscou, originaire de la CSSR ou de la Tchécoslovaquie. Que Dieu le bénisse, un physicien nucléaire, un homme de renom, de haut rang et de grande renommée. Aujourd'hui, il est ici. Il lève la main pour consacrer sa vie à Dieu. Mes chers amis, le Seigneur agit par sa parole et par son esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit-on, qu'attendons-nous encore? Faut-il qu'un ange vienne du ciel? Faut-il que quelqu'un ressuscite d'entre les morts? Le Seigneur est ressuscité des morts, d'entre les morts, il vit. Il envoie ses serviteurs matin et soir. Et nous ne nous tenons pas ici en notre propre nom. Nous nous tenons ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous crions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Recevez le message divin et le Seigneur sera avec vous. Abandonnons nos propres voies, nos propres pensées. Revenons vers le Seigneur afin qu'il nous guérisse, nous fasse connaître ses voies et nous révèle aussi son action. Peut-être y a-t-il encore des jeunes ici alors que toutes les têtes sont encore baissées, tous les yeux fermés. Qui a encore le courage de lever la main? Vous sentez que Dieu vous appelle? C'est maintenant que vous devez venir et dire oui. Qui d'autre veut lever la main pour consacrer sa vie à Dieu? Y a-t-il encore quelqu'un ici? Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Loué soit le nom du Seigneur, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Prions tous ensemble, que ceux qui savent prier le fassent, que le Seigneur accorde cette grâce à ceux qui ne le savent pas encore. Dites, apprends-nous à prier. Prions ensemble. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions au nom précieux de Jésus de Nazareth pour ta sainte présence, pour ta parole vivante, claire et sainte, pour l'action de ton Saint-Esprit. Tu montres les liens du tu consoles, tu montres les contextes, tu consoles, tu fortifies, tu encourages ton peuple. Alléluia! Le peuple qui a entendu le message prophétique aura part à l'action de Dieu maintenant. Seigneur, nous te disons merci et nous te louons. Nous avons accueilli les promesses en nous et elles nous transportent. Elles nous portent maintenant vers le pays, dans le pays de la promesse divine pour vivre la réalité, la réalisation de tout ce que Dieu a promis. Alléluia! Honneur, honneur, louange et gloire à toi, Dieu vivant, Dieu vivant. Acclamez-le, exultez-le, son nom, louez-le, glorifiez-le, adorez-le. Alléluia! 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 Seigneur, tu es digne! Tu es digne! Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur et l'adoration. Alléluia. Seigneur, nous te consacrons tous ceux qui se sont consacrés à toi. Ils te sont remis, tu les as appelés, tu les as accueillis, tu as effacé leurs fautes, tu as pardonné leurs péchés, tu donnes à leur esprit, par ton esprit, la certitude qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Seigneur bien-aimé, nous te remercions d'avoir dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Non, Seigneur, tu appelles et nous venons. Nous sommes auprès de toi et en sécurité en toi. Alléluia. Seigneur, tu les as tous accueillis, tu leur as pardonné. Le sang de l'agneau nous purifie tous de tout péché, de toute tache, de toute ride. Seigneur bien-aimé, conduis aussi ceux qui hésitent encore qui n'ont pas encore une clarté totale sur la réalisation de ton plan de salut en nos jours, qu'ils sortent de ce service divin avec la certitude que ce n'est pas un homme, mais que c'est Dieu qui a agi et qui agit et qui agira en ces jours-ci jusqu'à ce qu'il achève son œuvre et puisse revenir en tant qu'époux pour ramener l'épouse à la maison. Seigneur, je te remercie encore pour ta présence, pour l'action de ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, les écailles sont tombées des yeux de beaucoup. Ils ont compris de quoi il s'agit. Leur cœur brûlait tandis que tu nous parlais. Alléluia. Honneur, louange et gloire à ton nom glorieux. Maintenant et dans l'éternité. Alléluia. Amen.